Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Le Sénat a rejeté hier en première lecture la proposition de loi sur la fin de vie qui avait été votée en mars dernier à l'Assemblée nationale. Cette loi vise à autoriser, dans certains cas, le recours à une sédation profonde et continue jusqu'au décès du patient, sans aller toutefois d'ailleurs jusqu'à légaliser l'euthanasie, comme le réclamaient certains. La sédation permet de soulager la douleur et l'anxiété. Cette proposition de loi va donc repartir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que la sédation profonde ? Comment cette sédation est-elle proposée ? Qui prend la décision ? Nous revenons sur ce sujet qui fait débat à l'occasion du congrès de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui commence demain à Nantes. Pour en parler, le docteur Vincent Morel, qui est président de la Société d'accompagnement et de soins palliatifs, et Daniel Leboul, qui est chercheur au pôle recherche soins palliatifs en société de la maison médicale Jeanne Garnier, et les psychologues. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. En fin d'émission, on parlera d'une étude parue aujourd'hui dans le Lancet qui montre une augmentation des cas de paludisme en Guinée depuis le début de l'épidémie Ebola. Docteur Vincent Morel et Daniel Leboul, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là à la veille de votre grand congrès qui va se dérouler à Nantes. Alors, la proposition de loi qui, en fait, a été rejetée hier au Sénat avait été modifiée par rapport à celle votée à l'Assemblée nationale. Elle avait supprimé notamment l'instauration de ce droit à un endormissement pour les malades en phase terminale. Qu'est-ce que vous pensez, Vincent Morel, de ce vote au Sénat ?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénat n'a pas simplement modifié la proposition de loi Claeys-Leonetti, il est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il a modifié la loi de 2005. Dans des points majeurs, par exemple, il a modifié le titre de la loi 2005, il a modifié la définition de l'obstination déraisonnable, il a modifié le périmètre des directives anticipées. Donc globalement, dans la proposition du Sénat, c'était une déstructuration complète de la loi 2005 dans sa globalité. Donc il n'est pas étonnant qu'il y ait eu un vote...
Donc recul même
par rapport
à la loi Leonetti.
C'était un recul de 10 à 15 ans par rapport à la loi de 2005.
Donc, loi Leonetti qui avait été votée par la droite, il faut bien comprendre puisque le Sénat est à droite.
Voilà, la loi Leonetti avait été votée par les deux assemblées à l'unanimité. Là, je ne rentrerai pas dans les discussions politiques, mais le fait, c'est qu'il y avait un texte qui était un recul conséquent par rapport à la loi Leonetti de 2005. Et donc je trouve parfaitement logique, finalement, que la raison l'ait emportée et que cette proposition de loi a été rejetée par
donc
le Sénat.
Donc c'est une bonne nouvelle.
Alors, néanmoins, c'est une bonne nouvelle parce que ça sauve les repères de la loi Leonetti. Néanmoins, il y avait peut-être des propositions qui étaient tout à fait justes qu'avait réalisé le Sénat pour amender, modifier la loi Claeys-Leonetti. Il y aura de nouveau des discussions au niveau de l'Assemblée nationale. Il y aura probablement dans la deuxième navette un retour au Sénat et j'espère qu'à ce moment-là, on parlera des points précis de la loi Claeys-Leonetti et non pas de la loi Leonetti dans sa globalité en la déstructurant.
On est reparti pour quelques mois, en gros, c'est ça ?
Jusqu'à la fin de l'année, probablement.
Jusqu'à la fin de l'année. Vous en pensez quoi, vous, Daniel Leboul, de ce vote au Sénat ?
Je crois que Vincent a
dit ce que vous pensez. Vous avez
absolument résumé le fait que cette loi a été édulcorée, détricotée, et aussi un retour en arrière très important.
Et du coup, une inquiétude de votre côté en soins palliatifs, par exemple à la maison Jeanne Garnier, sur même détricoter cette loi Leonetti, qui était plutôt une avancée pour vous ?
Absolument, en tout cas, qui permettait que les pratiques puissent avoir des repères.
On va parler très longuement de cette sédation terminale, cette sédation continue, parce qu'en fait, on ne sait pas bien ce que c'est. C'est quoi, Vincent Morel ?
On va essayer d'être simple sur la sédation. Le principe général de la sédation, c'est d'endormir un malade pour qu'il ne vive pas une situation qu'il juge insupportable, alors même que tous les traitements ont été mis en place pour le soulager. Donc le but premier de la sédation, c'est de soulager un patient alors même qu'on n'y arrive pas.
Douleur et anxiété.
Et il y a deux cas de figure, et je vais prendre deux exemples, peut-être pour être le plus pédagogique. Vous avez d'abord ce qu'on appelle des sédations temporaires, intermittentes, c'est-à-dire qu'il y a un symptôme, comme l'anxiété, comme l'insomnie, qui handicape lourdement le malade, et par exemple, nous avons des patients qui n'arrivent plus à dormir. Ce que l'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va proposer d'endormir le malade vers 22h le soir, puis on va le réveiller vers 8h ou vers 7h selon le moment qu'il souhaite, et il aura passé une nuit correcte. On était donc bien dans le fait de le soulager, et c'est des sédations intermittentes. On commence à 22h, on arrête à 8h du matin. Et puis il y a d'autres sédations qui sont des sédations pour le qui vont aller jusqu'au décès, qui sont dans des situations où le patient a des très grands symptômes, comme par exemple un étouffement ou une hémorragie, un saignement, alors même que la mort est très proche. Dans ce cas-là, on en aura bien sûr discuté avec le patient avant, et s'il se met à étouffer, on lui proposera de l'endormir pour qu'il ne vive pas l'effroi de mourir en étouffant. Ce qui est important dans cette situation, c'est de considérer que le décès ne survient pas du fait que le patient était endormi. Le décès survient bien du fait que la maladie évolue. Si nous ne l'avions pas endormi, le patient aurait étouffé. Donc ça, c'est les deux exemples de sédation que l'on met en œuvre assez régulièrement, mais autant...
Oui, c'est ça, ma découverte, en fait, très honnêtement, en préparant cette émission, je suis désolée, pourtant on en a fait ensemble des émissions sur les soins palliatifs, c'est que, en fait, c'est déjà pratiqué.
Alors, la sédation est pratiquée couramment dans les structures de soins palliatifs. La sédation temporaire intermittente, comme pour aider un patient à dormir, ou le temps de faire un pansement, c'est régulier. La sédation jusqu'au décès, dans les situations d'étouffement ou d'hémorragie, c'est déjà beaucoup plus rare. Hein, c'est des situations qui
sont rares. On faisait plutôt l'intermittent.
C'est plutôt l'intermittente que l'on fait très fréquemment. Il y a une troisième modalité de sédation que l'on fait également, en dehors de l'intermittente et dehors du symptôme réfractaire en fin de vie, qui est lorsqu'on arrête un traitement par un principe de précaution. C'est-à-dire que dans certaines situations, vous avez par exemple des personnes qui sont dans le coma, qui ne peuvent plus communiquer, parce que cette personne refusait l'acharnement thérapeutique, on va arrêter les traitements qui les maintiennent artificiellement en vie. Bah, dans ce cas, le code de déontologie dit que par principe de précaution, pour être sûr que la personne ne souffre pas, on va aussi l'endormir. Mais de même, dans cette situation, le décès ne survient pas du fait de la sédation. Le décès survient tout simplement qu'on a arrêté un traitement qui maintenait en vie. Donc, toutes ces pratiques, elles sont très bien connues par les professionnels de santé. Elles ont fait l'objet de recommandations qui ont été validées par la Haute Autorité de Santé. La nouveauté, c'est que le législateur s'est saisi pour en faire un droit, et dans certaines conditions, la création de ce droit pose pour les équipes de soins palliatifs, pose aussi pour les patients et les familles un certain nombre de questions dont probablement on pourra
parler. Voilà, on va parler. Des recherches ont été menées, et Daniel Le Boul, vous allez nous parler plus longuement de ces recherches parce que c'est important. Juste encore une question, Vincent Morel, quels sont les produits qui sont utilisés? Parce que quand vous parlez d'un patient qui dort pas bien, là, les produits pour la sédation, c'est pas un somnifère.
Alors,
c'est un peu plus costaud,
alors,
si je peux m'exprimer ainsi.
Les produits pour la sédation, c'est des produits qui endorment. Un somnifère est un produit qui endort. Alors c'est un produit qu'on prend par la bouche, qui marche au bout de 30 minutes, mais on dort. La sédation, on va utiliser les mêmes produits en injectables. Mais c'est des produits qui vont endormir. Pour prendre l'exemple, le produit qu'on utilise, c'est un nom technique, c'est le midazolam, c'est un produit d'anesthésie. C'est le produit que l'on fait dès que l'on rentre au bloc opératoire, au moment où on va initier la suite de l'anesthésie générale. Et pour toutes les personnes qui ont une anesthésie, on oublie qu'on a été opéré. On sait qu'on est parti de la chambre et on oublie ce qui s'est passé au bloc opératoire. Pourtant, on était réveillé. Et ben, c'est grâce à ce produit qu'on oublie ce qui s'est passé.
Ce midazolam, c'est un produit d'anesthésie générale.
C'est un produit d'anesthésie. Alors, il faut savoir que au-delà d'un produit d'anesthésie, c'est aussi une benzodiazépine. Donc, c'est un produit qui calme l'angoisse, l'anxiété. Donc, lorsqu'on l'utilise à très faible dose, on va simplement calmer l'angoisse, calmer l'anxiété. Par contre, lorsqu'on rentre dans une sédation, on va augmenter les doses et on est en capacité d'endormir le patient en quelques minutes. Ça, c'est les protocoles que nous avons.
Daniel Le Boul, vous avez participé à une recherche justement sur cette sédation. Recherche très intéressante. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est disponible pour le grand public, mais moi, j'y ai appris plein de choses. Mais on dira à la fin si c'est disponible parce que j'ai trouvé ça intéressant. Comment cette recherche a été menée? Je dirais un peu pourquoi.
Alors, pourquoi? Mais c'est une question, c'était la question d'introduction d'ailleurs, c'est que on s'est rendu compte en regardant les dossiers et la consommation du médicament que Vincent Morel vient d'indiquer, le midazolam, qu'il y avait une augmentation très importante des prescriptions de midazolam et donc de la consommation de midazolam, et que dans les dossiers des patients, il y avait très peu d'indications de sédation. Donc on s'est dit c'est un peu paradoxal que les soignants et les médecins, évidemment, utilisent cette molécule sédative pour ses effets sédatifs et qu'en même temps, ils ne nomment pas l'effet de ce produit. Donc, on a monté une recherche qui était une recherche auprès des soignants, tous les professionnels soignants, donc médecins, infirmières et aides-soignants, dans la maison médicale Jeanne Garnier, donc qui est une unité de soins palliatifs de 81 lits à Paris, et à l'unité de soins palliatifs du CHU de Besançon. Et donc en faisant des entretiens avec ces soignants, en les observant aussi en situation, et en leur demandant d'écrire des récits cliniques. Et à partir de là, on a pu dégager quelque chose qui, finalement, est très peu documenté dans la littérature actuelle, enfin les articles actuels que j'ai pu essayer de consulter ou de trouver, c'est l'impact de l'action de Sédaté sur les soignants.
Et c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ça n'est pas du tout banal de sédater un patient. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait à la fois une sorte de grande, en fait, vraiment de grande peur. Grande peur dans deux, je dirais, deux chapitres. Le premier, c'est la peur que de la rupture de la communication. Hein, le fait que le patient sédaté ne puisse plus communiquer, c'est-à-dire une rupture de la relation, que ce soit la relation avec les soignants, mais aussi la relation avec les proches. Et qu'il y avait, sous-jacent à ça, l'idée que, finalement, sédater un patient serait de produire pour lui une sorte de mort sociale. Et la seconde
grande... Donc, ne plus savoir de quoi il a envie, de quoi il a besoin.
Et, mais absolument. Et d'ailleurs, il y a énormément de questions autour de, mais qu'est-ce qu'il ressent quand il est sédaté? Est-ce qu'en le sédatant, ne lui interdit pas d'exprimer, finalement, ce qu'il aurait encore à dire dans ses derniers moments de vie? Enfin, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'interprétation hâtive? Et est-ce qu'on n'utilise pas, finalement, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu en échec parce qu'on n'utilise pas d'autres moyens qui permettraient de le soulager?
L'autre peur, parce qu'il y a une peur aussi d'accélérer la mort.
Alors, l'autre peur, c'est essentiel, c'est cette peur de hâter la mort, voire de tuer le patient. Et ça, la surprise aussi là, c'est que quel que soit, je dirais, le processus de décision de la sédation, la délibération qui peut avoir lieu entre les soignants qui tiennent compte de l'avis de la personne elle-même, du patient lui-même, qui tiennent compte de l'avis des proches, avec, je dirais, une clarification de l'intention. L'intention n'est pas de tuer le malade hein, ou de hâter son décès, c'est de la survenue de son décès. C'est
véritablement
de le soulager, mais de le soulager dans des états de souffrance intenses. On est dans des états de souffrance intenses. Eh bien, malgré ça, malgré cette argumentation, il y a un moment, je dirais, un petit peu... qui déstructure un petit peu toute cette construction-là et qui est le moment de l'injection. Et en particulier, les infirmières sont extrêmement
parce que c'est elles qui sont
ça.
En première ligne là-dessus.
Oui,
bien sûr.
Oui.
Vincent Morel, cette peur d'accélérer la mort, elle est réelle ou en fait c'est pas le cas?
C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'à partir du moment où on fait un geste, si jamais le décès survient consécutivement au geste, tout humain que nous sommes, nous avons tendance à attribuer le décès à ce qu'on vient de faire. Ce que nous essayons nous de faire comme médecins, c'est de montrer que non. Bien réalisé, la sédation n'accélère pas ou ne provoque pas le décès. Il y a eu des très bonnes études qui ont montré que chez les patients qui étaient endormis ou chez les patients qui n'étaient pas endormis, le moment de la survenue du décès était non modifié. Ça, c'est important. Néanmoins, dans le vécu intime, on peut faire des rapprochements. C'est comme le cas, par exemple, d'une aide-soignante qui fait une toilette et au moment de la toilette, la personne décède. Lorsqu'elle va sortir de la chambre, elle va avoir l'impression d'avoir provoqué le décès. C'en est la même chose avec la sédation, c'est la même chose parfois avec des injections de morphine. Je me rappelle cette infirmière qui m'avait dit, alors qu'elle venait de faire une injection de morphine, le patient est décédé tout de suite, c'est de ma faute. Et quand j'ai regardé ce qui se passait, le produit n'est même pas encore arrivé dans le sang puisqu'il était passé par la perfusion. Donc il y a cette attribution. Ce qu'il faut pour nous être très clair, c'est au-delà de l'intention, c'est que les pratiques soient suffisamment rigoureuses pour exclure ce risque au maximum. Et ça veut dire que la sédation rentre dans des recommandations extrêmement précises de mise en œuvre. Et quand on dit qu'il faut faire 1 mg ou 2 mg, ce n'est pas 10, 20 ou 30 mg.
Et le bienfait, c'est ça, c'est la question de la dose, en fait, quand vous dites une sédation bien faite.
La sédation bien faite, ça nécessite de la compétence. Compétence soignante, compétence médicale. Ça nécessite de suivre des guidelines.
Parce que j'ai envie d'être formé.
D'être formé. Parce qu'en médecine, tous les produits sont dangereux. Le paracétamol que nous prenons tous les jours est excessivement dangereux s'il est mal utilisé. Il en est de même du ménazolam. Si on l'utilise mal, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça que nous insistons à chaque fois pour dire que la sédation est un soin qui vise à soulager et qui doit être mis en œuvre conformément aux recommandations, l'accord du malade, des équipes qui ont l'habitude et surtout des posologies qui sont parfaitement respectées.
Et il va falloir former des médecins en dehors des unités de soins palliatifs. On en reparlera après. Ce qui m'a frappé aussi, Daniel Leboul, dans cette étude, c'est qu'il y avait aussi une peur de créer une addiction chez certains soignants.
Oui.
Et ça, c'est une peur qui n'est pas justifiée.
Ça peut l'être avec l'imidazolam, hein, Vincent Morel pourra préciser cette dimension. En tout cas, ça voudrait dire aussi que, à la fois, on pourrait se dire, on a une molécule qui est facile à utiliser, qui a un effet extrêmement rapide, qui est un effet aussi réversible, parce qu'elle a une durée de vie très courte. Donc c'est un bon médicament, on peut se sentir un petit peu tout puissant. Mais en même temps, on peut se dire aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose qu'on ne voudrait pas créer ? Ce qui voudrait dire qu'il pourrait y avoir des équipes qui ne s'adaptent pas suffisamment. Qui serait l'autre côté,
par peur
de ces effets-là et par peur de l'addiction.
Vincent Morel, il y a un risque d'addiction ?
Ouais, un risque d'addiction comme avec toutes les benzodiazépines. Sauf que en fin de vie, j'ai envie de dire, l'addiction,
c'est pas bien grave. Hein,
c'est pas ça. Bien grave.
Ouais. En tout cas, ça doit pas être.
Ça doit pas être le frein. Ouais. Ce qu'il faut, c'est à un malade toujours lui proposer le juste soin et les justes traitements. Donc, il faut pas qu'il y ait une surindication de sédation. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une sous-indication de sédation. Et ce qu'on a remarqué en particulier dans les travaux qui ont été nécessaires pour préparer la nouvelle proposition de loi, c'est qu'on a rencontré des familles qui nous ont décrit des situations qui étaient inadmissibles. C'est-à-dire où, de toute évidence, les bonnes pratiques des soins palliatifs, le progrès que représentent les soins palliatifs, ne sont pas arrivés jusqu'au lit du malade. Et à ce moment-là, les patients, les familles vivent des situations de mort que je pourrais dire indignes, c'est-à-dire mal accompagnées, mal prises en charge, mal soulagées, alors même que nous, les professionnels de santé, savons que dans ces situations-là, nous aurions pu mieux traiter la douleur, mieux traiter la dyspnée, et que si jamais, avec les traitements que nous avons à notre disposition, nous n'y arrivions pas, alors, de façon relativement rare, nous aurions pu endormir le malade. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler, on en reparlera tout à l'heure, sur la pédagogie et sur la formation pour que les personnes aient vraiment accès aux justes soins, aux justes traitements, dont la sédation fait partie parmi d'autres traitements à notre disposition.
Daniel Le Boul, je voudrais revenir sur un élément que vous avez évoqué au tout début quand vous nous avez présenté cette étude en disant on n'utilise pas finalement ce mot sédation. Et est-ce que du coup le patient a conscience de ce qu'on va lui faire et conscience donc donne son accord ?
Alors c'est une question qui est un petit peu, qui serait peut-être prendrait du temps pour être développé. Je crois que vous avez pu comprendre à partir de ce que la description de Vincent Morel a faite des différents types de sédation, qu'il y a des sédations qui peuvent advenir au décours, par exemple, de la tentative de soulager de l'anxiété ou de, parce qu'on va augmenter des doses et qu'à un moment donné, le patient va être sédaté et les soignants n'appellent pas ça sédation dans ces cas-là. D'accord? C'est-à-dire, il y a une sorte de continuum, si vous voulez, entre le traitement de l'anxiété, le traitement de l'agitation, le traitement de la confusion et la sédation qui est le fait de l'augmentation des doses. Mais ceci étant, pour eux, sédation, c'est plus ils entendent dans le terme de sédation, en tout cas, quand on a fait l'étude, c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans, le terme de sédation profonde et continue.
C'est ça qu'on entend dans ce terme-là.
C'est ça qui, en tout cas,
mais c'est pas la réalité.
Mais non, c'est pas la réalité. Justement, c'est pas, comme le disait tout à l'heure Vincent Morel, ils sont extrêmement rares, ces sédations continues, profondes jusqu'au décès, en soins palliatifs. Dans les unités de soins palliatifs, c'est quelques cas par an. Donc vous voyez, il y a une sorte de décalage où là on voit bien qu'il ne suffit pas de décrire les choses objectivement. Il y a vraiment tout ce qui est investi au plan subjectif, tout ce qui fait écho par rapport à ses propres peurs, par rapport à sa propre angoisse, par rapport à ses dimensions d'échec et la façon dont on peut s'en protéger. Ne pas citer en permanence sédation, ne pas nommer en permanence sédation, c'est une façon de se protéger de ça.
Oui.
Vous voyez, des représentations qu'on a de la sédation en tant qu'elle est mortifère, entre
guillemets. Tout à fait. Mais de votre recherche, il en ressort quoi ? Il faudrait en parler plus ? Il faudrait oser utiliser le terme ?
Ben, je pense qu'il faut, oui. Alors, c'est là où on pourrait, il y a la question de la formation, hein, qui pourrait être un bon enjeu. Et puis, il y a la question aussi de revenir sur les pratiques. C'est-à-dire qu'il y ait des analyses, des pratiques qui soient extrêmement précises pour justement, déculpabiliser aussi.
Et bien nommé. On y reviendra, si vous voulez bien, voilà. Dans la deuxième partie de cette émission. On reparlera longuement de la formation. Vous pouvez continuer, si vous voulez, à nous appeler au 33 1 84 22 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement de la fin de vie et de la loi sur la fin de vie qui vient d'être rejetée par le Sénat hier. On en parle avec le docteur Vincent Morel, président de la Société d'accompagnement et de soins palliatifs, et Daniel Leboul, qui est chercheur au pôle recherche soins palliatifs en société de la maison médicale Jeanne Garnier. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dans la première partie de l'émission, on a longuement parlé d'une recherche qui a été menée, auquel vous avez participé, sur la sédation, justement. Il en ressort que le résultat de ce travail témoigne d'une souffrance des soignants vis-à-vis d'une pratique qui interroge la question des limites. C'est ce qui ressort de cette étude ?
Oui, je crois. Hein.
La souffrance des soignants.
Oui. C'est avec un peu de surprise, encore une fois, les résultats. On les a extraits de l'ensemble du matériau qu'on avait. Hein. Et je crois que les soignants sont en permanence confrontés à des dilemmes. Par exemple, si je reprends ce qui les fait vraiment souffrance pour eux, qui est la rupture de la relation et de la communication, il y a bien des situations où des patients très proches de leur fin de vie, très proches de leur décès, ne communiquent plus. Donc, vous voyez, soulager cette souffrance dans ces situations alors que le patient ne communique pas, parce qu'il est peut-être extrêmement douloureux ou qu'il est déjà dans le coma, c'est paradoxal, le fait de dire on veut surtout ne pas le sédater pour qu'il puisse continuer à communiquer. Et constamment, on a des questions comme ça qui fait que la question de la loi, quand même, sur le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, si on la comprend comme une forme d'injonction à une réponse automatique, on va absolument pas pouvoir répondre, en fait. Parce que la question de la sédation, c'est une question qui s'inscrit dans des contextes, qui est une question d'engager un dialogue, voire une négociation avec tous ceux qui sont concernés, et pas simplement, je vous mets le médicament. C'est la prise en compte de toutes ces hésitations, donc toutes ces limites auxquelles les soignants, mais aussi les proches, qui sont confrontés, si le patient est confronté, et pas l'idée qu'il n'y aurait qu'à faire.
C'est plus compliqué que ça.
Mais oui, on est complètement dans un cadre où l'incertitude, quand même, est généralisée.
Docteur Vincent Morel, c'est ça qui va rendre les choses compliquées sur l'application, quand elle sera votée, de cette loi sur la fin de vie et sur la sédation. C'est qu'il va falloir non seulement former, je dirais, l'ensemble des médecins, parce que l'idée, c'est que ce soit pas qu'en unité de soins palliatifs. Et on sent bien que c'est déjà compliqué dans une unité de soins palliatifs, alors à l'extérieur. Parce que là, l'enquête qui a été menée, c'est uniquement en unité de soins palliatifs, de gens qui sont spécialistes.
Je crois qu'effectivement, on est face à une difficulté importante qui va être l'œuvre pédagogique. L'œuvre pédagogique d'abord vis-à-vis des patients et des familles pour qu'ils comprennent ce que c'est que la sédation. On en a essayé de la définir tout à l'heure, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils entendent que la sédation est forcément profonde et continue jusqu'au décès, puisque cette pratique de la sédation est exceptionnelle au regard de toutes les autres situations où on peut proposer à un patient de l'endormir alors même qu'il lui reste des semaines ou des mois à vivre. Donc là, il y a vraiment un élément pédagogique à faire. L'autre élément pédagogique vis-à-vis des familles et des patients, c'est de les dissocier cette question de la sédation d'une demande d'euthanasie ou de suicide assisté. Donc il faudra bien faire cette œuvre de pédagogie. La deuxième œuvre de pédagogie, il faut la tourner vers les soignants et les professionnels eux-mêmes. À la fois, comme le disait Daniel, dans la perception qu'ils ont du geste, parce que, au-delà de la souffrance, j'y vois aussi de la grande difficulté, puisque c'est un geste qui est relativement difficile à appréhender dans toute sa dimension. Et puis, au-delà, il faudra aussi avoir une vraie œuvre de pédagogie dans la mise en œuvre de la sédation. Comment est-ce qu'on la met en œuvre en fonction des situations que j'ai pu expliquer en début d'émission. Donc il va falloir, en tout cas pour la Société française de soins palliatifs, se réattacher à réécrire des recommandations de façon à ce que les choses soient extrêmement claires. Et je rejoins complètement Daniel dans ce qu'elle dit, qu'il ne faut pas que cette sédation, ça soit une injonction automatique. Il faut que la loi incite à la discussion. La loi ne doit pas être quelque chose d'automatique. Je veux la sédation, je suis endormi. Certes, c'est un droit à. Néanmoins, si c'est comme ça, on va perdre la relation, on va perdre la confiance. Et je crois qu'elle doit surtout s'inscrire dans la confiance. Et donc, il va falloir faire œuvre de pédagogie pour dire que si même j'ai un droit A, il faudra bien sûr que je l'évoque avec le professionnel de santé, avec le médecin, et qu'ensemble, on re-regarde la situation dans l'intérêt du malade.
Donc, il va falloir former le grand public, hein, en tout cas l'informer, et former les médecins. Il en est quoi dans les études de médecine, là, où il y a une petite part maintenant sur les soins palliatifs, sur ce genre de choses?
Finalement, quand vous dites l'information du grand public et la formation des médecins et des professionnels de santé, j'espère que ça va faire partie des deux grands, au moins des grands axes du prochain plan. Sur la formation, aujourd'hui, un médecin encore a 10 heures de formation sur l'ensemble de ses études. Et comme il faut 10 ans...
Sur les soins palliatifs.
Sur les soins palliatifs. Sur la fin de vie. Et comme il faut 10 ans pour former un médecin, il va avoir une heure de cours par an pour un sujet auquel il sera confronté au quotidien.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Alors, on peut pas non plus avoir mobilisé tout l'enseignement autour des soins palliatifs, mais on voit bien qu'il y a un effort de pédagogie à faire et d'enseignement, à la fois en formation initiale, les médecins et les infirmières, mais tout autant en formation continue. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que je fais de la médecine, je faisais cours hier aux étudiants, et quand je suis rentré en fac de médecine, je n'ai pas entendu en 6 ans une seule fois le mot soins palliatifs. Donc il y a des progrès, il faut continuer, mais c'est un véritable enjeu. Sinon, les patients vont encore vivre des situations inacceptables.
Révélateur de ce qu'on a du mal à parler de la mort dans notre société. On va revenir à la loi, mais juste un dernier mot. On fait quoi de cette étude maintenant que moi j'ai trouvé passionnante? J'ai dit qu'il faudrait la lire, mais elle n'est pas disponible.
L'étude, elle est en cours de publication. Donc après, il faut respecter les personnes qui ont fait les études, c'est-à-dire qu'elles vont être publiées dans des revues internationales, et les revues qui attendent les publications demandent finalement un embargo sur les résultats. Donc je pense que je connais suffisamment toutes les équipes de Jeanne Garnier pour savoir qu'ils s'attellent aux écritures des textes. Probablement que lorsque les grandes données seront diffusées, il y aura peut-être moyen à ce moment-là d'avoir accès à l'étude dans son intégralité. Mais ça, c'est les règles.
Vous nous tiendrez au courant.
Voilà. Oui, on vous tiendra au courant. C'est les règles de la publication internationale. Donc c'est déjà bien qu'on puisse l'évoquer ici avec leurs auteurs. Mais après, oui, on va avoir les éléments au fur et à mesure.
Pour avoir l'intégralité. Quelles sont les autres nouveautés de la loi sur la fin de vie telle qu'elle avait été votée à l'Assemblée nationale, pas celle qui vient d'être rejetée au Sénat? Il y a toute la question de l'importance des directives anticipées, c'est-à-dire de dire, alors je ne sais pas comment, à son entourage, ce qu'on souhaiterait.
Donc effectivement, la proposition de loi Claeys-Leonetti avait axé sur deux choses. D'abord, rassurer sur le patient sur le fait qu'il serait soulagé, c'était toute la question du pan de la sédation, mais également rassurer le patient sur le fait qu'il serait mieux entendu. Les patients nous disent qu'ils ne sont pas suffisamment entendus, et pour cela, il y a un levier qui a été mis en place, ou qui a été mobilisé, qui sont les directives anticipées. Jusqu'à présent, les directives anticipées étaient consultées par le médecin. En fait, qu'est-ce que les directives anticipées? C'est le fait que je prends un papier et j'écris ce que je souhaite, au cas où il m'arrive quelque chose. Le législateur a estimé deux choses. D'abord, qu'il fallait renforcer le pouvoir de ces directives anticipées, et ensuite d'aider à leur rédaction. Pour renforcer le pouvoir de ces directives anticipées, il a inscrit dans la loi qu'elles s'imposaient aux médecins, sauf deux situations. La première situation, c'est l'urgence vitale, le temps de faire un diagnostic. Il est évident que dans certaines situations, il faut laisser au médecin le temps de faire un diagnostic.
Savoir s'il peut sauver la personne.
Voilà. Par exemple, une personne dirait, si je suis dans le coma, je veux pas être réanimé. Il s'agit pas de la même chose si jamais il y a du sang partout dans le cerveau, excusez-moi de cette image simpliste. Ou alors, si simplement c'est un hématome qui peut être traité, donc il faut laisser du temps au médecin pour faire le diagnostic. La deuxième chose, c'est si les directives anticipées sont manifestement inappropriées. Il y a des situations, de toute évidence, la rédaction ne correspond pas à la réalité. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est que c'est pas un médecin seul qui décidera de ne pas suivre les directives anticipées. Le principe de base, c'est qu'on devra les suivre. Il y aura ces deux exceptions. Et si on veut mettre en place ces exceptions, on devra consulter un autre médecin. Ça sera la décision des deux médecins. Donc c'est important de redire aux auditeurs que
c'est une décision collective.
C'est une décision collective, et que si jamais on s'oppose aux directives anticipées, il y aura vraiment l'ensemble des arguments dans l'intérêt du malade.
Alors, l'autre point, c'est aider à l'écriture de ces directives.
C'est la rédaction des directives.
Vous les avez écrites, vous?
Moi, je les ai écrites. Alors, je les ai écrites.
Je vous pose la même question, Daniel Le Boul.
Non. Non, mais en tant que psy, j'ai beaucoup de mal à écrire.
J'aurais 30 pages.
Je les ai écrites. Non, mais c'est très intéressant. On avait fait une émission au mois d'octobre avec Jean Leonetti, justement, là-dessus. Et parce que je lui dis, mais effectivement, vous me mettez devant une feuille blanche, moi, à écrire mes directives anticipées. Je vais commencer par écrire, je veux pas d'acharnement thérapeutique. On m'a dit, mais ça, c'est une évidence. C'est pas la peine de l'écrire. On écrit quoi?
Alors, il y a d'abord deux situations. Il y a soit la situation que l'on peut prévenir. Si on est malade, on sait qu'on peut avoir telle ou telle complication. À ce moment-là, on va être avec son médecin traitant et on va essayer de prévenir les complications. Et puis, il y a la situation où on ne peut rien prévenir, c'est la situation de l'accident. Et le drame médiatique de l'affaire de Vincent Lambert traduit bien le fait qu'il y a des situations qu'on ne peut pas anticiper. Mais moi, c'est cette situation que j'ai essayé d'anticiper. Alors, j'ai écrit que si un jour je me retrouvais dans le coma, en situation végétative ou possi-relationnelle, je demandais au bout d'un certain temps, parce que je fais quand même confiance à mes collègues, de ne pas poursuivre les traitements qui me maintiennent en vie.
Et dans les traitements, vous mettez
justement
l'alimentation.
J'ai même spécifié l'alimentation et la nutrition artificielle. Je n'aurais pas eu besoin de le spécifier parce que pour moi, la nutrition et l'hydratation artificielle est un traitement. Mais la question, c'est pas de savoir si c'est un traitement ou un soin, parce que le Sénat s'est battu pour dire que c'était un soin, d'autres se battent pour dire que c'est un traitement. La question qui se pose, c'est de savoir si dans une situation donnée, la nutrition et l'hydratation restent les deux derniers traitements qui maintiennent en vie une personne alors qu'elle ne le souhaite pas. C'est ça la vraie question. Et si tel est le cas, alors on doit pouvoir l'arrêter. Et donc moi j'ai demandé qu'au bout d'un certain temps, si j'étais, ce que je souhaite pas, hein, j'espère qu'en sortant du studio ça va pas m'arriver, je le souhaite pas, eh ben
non,
on
c'est
arrête
pas parce
les
qu'on
traitements.
L'a écrit que ça va arriver,
justement.
Hein, d'ailleurs. Hein,
On est
et l'autre point important, je voulais dire sur les directives anticipées, c'est qu'au moment où je les ai écrites, je pensais au début que ça me concernait que moi. Puis après, je me suis dit, parce qu'au moment où on les signe, il y a un petit moment d'angoisse quand même, parce qu'on se projette dans l'avenir. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour moi que je les ai écrites. C'est peut-être plus pour mes proches. C'est-à-dire, mon idée, c'était de finalement d'épargner à mon épouse le fait qu'on lui pose une question difficile. Et comment elle puisse s'asseoir sur un écrit. Je suis aujourd'hui à penser que les directives anticipées, c'est aussi important pour ses proches que pour soi-même, parce qu'au moment où elles vont avoir à discuter, il y aura beaucoup de tensions, il y aura beaucoup d'émotions, et si on peut un tout petit peu les aider, c'est peut-être
pas mal. C'est exactement ce qui se passe dans l'affaire Vincent Lambert, hein, donc ce patient qui est en état végétatif depuis 2008. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu début juin sa décision sur l'arrêt controversé de ses soins, hein, qui maintiennent en vie Vincent Lambert. Le Conseil d'État a autorisé en juin 2014 l'arrêt de cette alimentation dont que vous évoquiez, jugeant justement que c'était une obstination de soins déraisonnable, hein, vu son état jugé irréversible. Les parents avaient saisi donc la Cour européenne des droits de l'homme qui finalement a donné raison au Conseil d'État. Mais on fait quoi maintenant, Vincent Morel ?
Alors, maintenant, il va falloir arriver à la mise en œuvre de cette décision. C'est-à-dire qu'effectivement, le Conseil d'État, confirmé par la Cour européenne, a considéré qu'il y avait une situation d'obstination déraisonnable qui était refusée par Vincent Lambert. Maintenant, il va falloir mettre en œuvre cette décision. Ce que j'invite, c'est à laisser les équipes de soins au calme, dans une forme de sérénité, pour voir comment ils vont pouvoir mettre en œuvre cette décision. Est-ce qu'il faut recommencer une procédure collégiale ? Est-ce qu'il faut refaire des examens ? Ça va être à eux de le faire. Le point important, me semble-t-il, de cet arrêt du Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État ne s'est positionné que pour Vincent Lambert. Et qu'il a dit que pour les autres personnes qui étaient en coma végétatif, il ne fallait pas arrêter la nutrition ou l'hydratation. C'est-à-dire, la phrase, c'est le seul fait d'être dans une situation de coma végétatif ne justifie pas d'arrêter la nutrition et l'hydratation. L'autre point essentiel...
C'est parce que Vincent Lambert avait bien dit à son épouse qu'il ne voulait pas d'acharnement.
Voilà. Et l'autre point essentiel qu'a écrit le Conseil d'État, qu'on oublie un petit peu mais qui est très intelligent, c'est de dire que si la personne n'a pas exprimé sa volonté, il ne faut pas en juger qu'il ne voudrait pas poursuivre les soins. Donc c'est une double négation qui veut dire, en langage plus simple, si je n'ai rien dit, le médecin doit poursuivre l'hydratation. En clair, une personne qui est aujourd'hui dans un coma végétatif, qui n'a rien exprimé de sa volonté, j'ai, avec l'arrêt du Conseil d'État, l'obligation de poursuivre la nutrition et l'hydratation. Donc on voit bien qu'ils ont visé le Conseil d'État
quelqu'un
au travers...
Quelqu'un qui n'a rien dit, on continue.
Voilà. On continue.
Et quand même, je veux revenir sur cette histoire, Vincent Lambert, parce que là, on parlait des directives anticipées. L'intérêt de ces directives anticipées, c'est que ça permettrait d'éviter qu'une famille se déchire comme dans une situation comme ça.
Dans l'affaire de Vincent Lambert, c'est pas un échec de la loi Leonetti, c'est un échec de sa diffusion. S'il avait écrit ses directives anticipées, s'il avait désigné une personne de confiance, on aurait évité au drame humain de rajouter un drame familial. Donc vraiment, enfin, j'incite à écrire les directives anticipées, j'incite
vous
à désigner
où,
une personne de confiance.
Vous...
Alors moi, elles sont même publiques sur le site de la SFAP.
Ah,
donc comme ça, je suis carrément sûr que tout le monde aura accès. Parce que c'est pas simple de les écrire.
Mais
alors
non,
ce qu'on va plaider, en particulier dans les mois à venir, c'est que l'écriture de ces directives anticipées soit considérée comme un acte soignant et médical, parce que les écrire, c'est pas simple, et il y a besoin d'être aidé pour les écrire. Donc j'espère que dans les décrets d'application, on pourra aller voir son médecin traitant ou une infirmière simplement pour se faire aider pour écrire ces directives anticipées.
Daniel Le Boul, vous qui travaillez dans une unité de soins palliatifs, là, à la maison médicale Jeanne Garnier, ces situations finalement de désaccord dans la famille, sont-ils fréquents ou au contraire très rares ?
Non, je pense qu'il y a... Fréquemment, nous, on est confrontés à des formes de tension ou de conflit entre les proches. C'est pour ça que la famille dont on parle, c'est pas une unité complètement cohérente. Il y a souvent beaucoup de tensions. En particulier, même par rapport à des demandes de sédation. Là aussi, il y a tout un processus d'accompagnement des familles. Quand le patient demande à être sédaté parce que ce qu'il vit au plan existentiel lui est intolérable, eh bien là, on voit bien que ça prend du temps
Parce qu'il y a des familles qui résistent.
Hein. Mais des familles qui ne peuvent pas accéder même accepter cette demande parce qu'ils n'ont pas envie que la personne meure. Mmh. Simplement. Donc je veux dire, on est quand même dans des situations de grande souffrance et ça, j'insiste sur cette dimension. C'est qu'on peut pas traiter les choses de façon mécanique et que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'explications, beaucoup de dialogues. Et je peux vous dire que on a eu un cas il n'y a pas très longtemps. Finalement, globalement, la famille était sur la voie d'accepter, effectivement, avec le patient, hein, la sédation. Et puis, il y a un des membres de la famille qui a dit « Mais moi, je ne suis pas prêt. » Donc, ça n'a pas été fait parce qu'il y en avait un qui n'était pas prêt. On a attendu. Cette personne, ce patient est décédé. Et c'est toute la famille qui a remercié. Qu'on se soit pas précipité. Hein.
Mais ça, vous l'avez dit, Daniel Leboul, ça demande du temps. Docteur Vincent Morel, dans les unités palliatives, il y a quand même plus de personnel, plus de moyens que dans un service normal. On va faire comment dans un service classique ?
C'est-à-dire, prendre du temps, c'est prendre le temps opportun. Je persiste à dire qu'à l'hôpital, on a le temps de l'essentiel. Donc, dans la question de la sédation, on doit d'abord entendre les angoisses, non seulement des patients, mais aussi des familles autour de ces gestes-là. Il y a par exemple une angoisse majeure qui est que quand vous allez endormir mon proche, il va mourir de faim ou de soif. Cette question, on l'entend en permanence. Et donc, il nous faut le temps d'affirmer que non. Lorsque la personne est endormie, elle ne ressent pas la sensation de soif, elle ne ressent pas la sensation de faim. Ce n'est pas possible médicalement, nous le savons. Donc, ça veut dire qu'avant de commencer une sédation, de mettre en œuvre une sédation, il y a toute une œuvre de discussion, d'échange avec la famille, et que ce qui est important, c'est pas le temps dans la durée, c'est le temps dans son intensité et dans l'écoute attentive que l'on a des questions que pose le patient et que pose la famille. L'objectif de ces discussions, c'est de créer un climat de confiance suffisant pour que les décisions qui seront prises seront comprises à la fois par la famille et le patient, et aussi par l'équipe de soins et le médecin.
Le point important aujourd'hui, c'est le plan de soins palliatifs, justement, pour renforcer les soins palliatifs, à la fois dans les unités, mais dans les hôpitaux en général. On en est où de ça?
Alors,
c'est pour ça que vous êtes à Paris.
Ouais, c'est pour ça que je suis à Paris. La ministre a dit la semaine dernière qu'elle allait engager une concertation sur le plan, et cette concertation commence effectivement aujourd'hui, avec, je crois, la définition des grands axes qu'elle a ébauchés. Le premier axe, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question de la formation. C'est indispensable de mieux former les professionnels. Le deuxième axe, c'est d'assurer le développement des soins palliatifs à domicile et dans tout le secteur médico-social, les maisons pour les personnes âgées, les EHPAD, puisque nos concitoyens veulent mourir chez eux. Encore faut-il qu'ils puissent mourir chez eux. Et les plans précédents ont beaucoup développé les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles, c'est-à-dire les soins palliatifs à l'hôpital. Sortons de l'hôpital, développons les soins palliatifs à la maison. Et en développant les soins palliatifs à la maison, il y a un point majeur auquel il faudra être vigilant, que sont les inégalités territoriales. Il y a des zones de notre territoire où l'accès aux soins palliatifs est extrêmement important, extrêmement favorable. Et puis, il y a ce que j'appelle des zones blanches, où l'accès aux soins palliatifs est impossible. On ne peut pas accepter qu'il y ait une inégalité territoriale d'accès aux soins palliatifs. Donc, le troisième axe devra sûrement viser à faire en sorte de répondre à cette inégalité territoriale. Et puis, le quatrième, qui m'apparaît, moi, extrêmement important, c'est tout ce qui va concerner l'information et le développement des nouvelles solidarités. Tout ce qui va être l'accompagnement des familles. Parce que je crois qu'on demande beaucoup aujourd'hui au champ de la médecine, au champ des soignants, mais il y aura aussi la question de la réappropriation de la fin de vie, la réappropriation de l'accompagnement des personnes qui décèdent. Et nous avons probablement à réfléchir ensemble aux nouvelles formes de solidarité, aux bénévolats d'accompagnement, aux autres formes de bénévolat qui viendront également soutenir la personne en fin de vie, en particulier si aller à domicile ou en maison de retraite.
Ça veut dire qu'il faut aussi que l'entourage puisse être dégagé de son travail, ça veut aller jusque-là.
C'est pour ça que je me réjouis de savoir que maintenant, dans l'institution publique, on peut offrir des RTT, ce qui est extrêmement important.
À un collègue qui, justement, est en difficulté avec sa famille. Demain démarre, j'ai dit en début d'émission, le congrès de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Ça va se dérouler à Nantes. Vous allez parler de tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, c'est ça ?
À Nantes, on va surtout parler, on va parler de toute l'actualité, mais on en parle déjà depuis très longtemps. Mais le congrès de Nantes, où il va y avoir 2500 acteurs de soins palliatifs, ce qui est énorme, pendant 3 jours, le sujet principal cette année, c'est la formation, la pédagogie, la transmission des savoirs. Donc, pendant 3 jours, on va réfléchir à comment mieux communiquer, mieux former, mieux transmettre la connaissance des soins palliatifs, pas simplement dans les universités, mais partout. Comment arriver à former l'infirmière libérale? Comment arriver aussi à former les aidants? Donc ça va être tout l'objet du congrès de Nantes pendant 3 jours.
Il va y avoir des débats aussi sur cette question de sédation profonde qu'on a abordée en début d'émission, parce qu'il y a des désaccords entre vous au sein des soins palliatifs sur cette nouvelle loi.
Il y a eu autour de la nouvelle loi, et volontairement je l'avais fait en amont du congrès, une journée qui a été organisée le 20 mai dernier, pendant toute la journée sur Paris, où on a rassemblé plus de 400 à 500 acteurs de soins palliatifs, qui a été exclusivement consacrée à la question de la sédation. Il y aura des sujets qui seront abordés au congrès, mais je crois qu'il faut être attentif à ce que cette question de la sédation ne mobilise pas toute l'attention. Derrière, il y a des enjeux qui sont considérables, que sont le développement des soins palliatifs et l'accès pour tous les patients au progrès que représentent les soins palliatifs. Et l'autre axe tout aussi majeur, c'est la formation. Donc moi, mon souhait pour ces trois jours,
c'est qu'on ne se polarise pas là-dessus. Mais de fait, il y a des désaccords quand même entre vous.
Il y a des désaccords. Les désaccords qu'il y a dans les soins palliatifs, c'est sur la notion de risque ou de mésusage de la nouvelle loi. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le dispositif qui est écrit, il y a un risque qui pourrait faire que la sédation puisse être assimilée à une forme d'euthanasie ou de pseudo-suicide assisté.
Le législateur... C'est ce que disait Daniel Leboul en disant un petit peu, si on propose ça systématiquement ou si le patient le demande systématiquement, ça ne va pas être une solution.
Le législateur a essayé de mettre un certain nombre de verrous. Ces verrous, c'est la procédure collégiale. Ce verrou, ce sont les situations très claires dans lesquelles la sédation peut être mise en œuvre. Et ben, il y a des questions sur le périmètre de ces éléments de contrôle et ces repères. Donc c'est normal qu'on ait des distensions, mais j'ai envie de dire les distensions, elles sont sur le mésusage qu'il pourrait y avoir de la loi, elles sont pas sur le principe qu'un malade qui souffre soit soulagé et si besoin en étant endormi. Ça là-dessus, nous sommes extrêmement clairs parce que c'est notre quotidien.
La peur, c'est juste le mésusage. Merci beaucoup docteur Vincent Morel, merci Daniel Leboul. Et on va parler pour terminer d'une étude publiée aujourd'hui dans le Lancet qui parle de l'augmentation des cas de paludisme en Guinée depuis le début de l'épidémie d'Ebola.
Priorité santé sur RFI.
Le Lancet publie donc aujourd'hui une étude qui montre une augmentation des cas de paludisme en Guinée depuis le début de l'épidémie d'Ebola. Docteur Franco Pagnoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de santé publique, vous êtes spécialiste en médecine tropicale, vous travaillez au programme mondial paludisme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quelle est cette augmentation des cas de paludisme en Guinée depuis le début de l'épidémie d'Ebola ?
Mais c'est surtout, disons que l'étude publiée aujourd'hui sur le Lancet montre plutôt comme les cas de paludisme pendant l'épidémie d'Ebola n'ont pas été traités comme les années précédentes. Et ceci à cause du fait que les gens ne fréquentaient pas les centres de santé, ne s'en rendaient pas chercher le traitement antipaludique le moment qu'ils tombaient malades.
Et est-ce que ça a été corrélé avec une augmentation du nombre de décès?
Mais ça, c'est une estimation, madame. Mmh. On n'a pas pu démontrer une augmentation des décès. Cependant, c'est possible. Si des milliers de cas n'ont pas été traités comme il faut, il est malheureusement fort probable qu'il y a eu une augmentation de cas.
Comment cette étude a-t-elle été menée? Parce qu'on se doutait un peu qu'il y avait quelque chose qui se passait sur les autres pathologies, entre autres le paludisme. Mais comment vous avez réussi à mener une étude comme ça?
C'est pas nous de l'OMS qui a fait l'étude. L'étude a été par des chercheurs guinéens en collaboration avec les collègues du centre de disease d'Atlanta aux États-Unis. Ils ont fait des enquêtes transversales. Ils ont comparé les données de fréquentation de centres de santé en 2014 aux années précédentes. Ils ont fait des interviews avec les fonctionnaires et les médecins et les infirmières des centres. Donc, ils ont suivi une méthodologie, disons, assez précise, vu les conditions difficiles dans lesquelles ils ont travaillé.
Ce qui a compliqué aussi la question du traitement du palu au moment de cette épidémie d'Ebola, c'est qu'au départ, les symptômes, finalement, sont assez semblables.
Exactement. Exactement. Et ça aussi est en partie responsable, disons, de la baisse de la fréquentation des centres de santé, parce que les gens avaient peur de se rendre dans les centres de santé, parce que comme ils avaient la fièvre, donc évidemment, ils étaient obligés dans le protocole d'être référés au centre de traitement pour l'Ebola, pour être testés pour l'Ebola et pour le paludisme. Comme on le sait, souvent dans les centres de traitement, il y a aussi un risque de d'être contagé de par l'Ebola. Donc,
si jamais justement on n'est pas atteint. En fait. Qu'est-ce que vous recommandez suite à cette étude ?
Mais la recommandation, est, disons que le fait que pendant une épidémie, le système de santé publique est bouleversé, c'est quelque chose qu'on connaît. Et évidemment aussi, c'est difficile parce que pendant une épidémie si grave comme l'épidoma, évidemment, on se concentre sur l'épidémie. Mais il faut, dès le début, comme on le sait que ceci va arriver, il faut tout faire pour encourager la population à se rendre dans les centres de santé et prendre les mesures nécessaires pour éviter les conséquences néfastes sur le système de santé.
Et les décès dus à d'autres pathologies. Merci beaucoup, docteur Franco Pagnoni. Je rappelle que vous travaillez au programme mondial paludisme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Demain, nous parlerons de la crise que traverse l'hôpital public en France. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos remarques et de vos questions, soit sur Facebook, soit au téléphone au 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké, Ophélie Lassène, et à demain.